RCF.
Amis auditeurs, auditrices de RCF et de l'émission La vie militaire dans Cher le Berry, dans le cadre du Berry se raconte avec Agora Défense. Bonjour à vous. Notre émission aujourd'hui sera consacrée au service de santé des armées, avec comme invité le commandant médecin en chef, Olivier Michel, que nous avons reçu le mois dernier. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Bonjour mon commandant médecin chef. Merci une nouvelle fois d'avoir accepté mon invitation en votre qualité de médecin militaire de réserve. Les Berruyers se souviennent avec nostalgie de l'hôpital Baudens, qui est un hôpital militaire, où nombre de jeunes appelés, mais aussi beaucoup de civils, ont été soignés. Cette époque est révolue par la disparition du service national. Ma première question, Olivier, comment s'organise le service de santé des armées en 2023? En grand trait, bien évidemment, hein, Olivier. Mais pour nous, auditeurs, auditrices, c'est vraiment un grand inconnu. On connaît les grands hôpitaux parisiens, Val-de-Grâce. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit schéma de cette organisation?
Oui, je vais essayer. Bien, donc au sein des armées, il y a ce qu'on appelle le service de santé des armées, qui est dirigé par la direction centrale du service de santé des armées. Au sein de cette direction centrale, nous avons la direction de la médecine des forces et nous avons une direction pour la partie hospitalière.
Donc, les forces, qu'est-ce que c'est?
Les forces, c'est le soutien aux forces des armées.
Très bien.
Voilà. La direction de la médecine des forces est à Tours. Et elle est dirigée par un directeur de la médecine des forces qui est un médecin général.
Je ne le savais pas.
Voilà. Et donc, on a l'équivalent pour les hôpitaux. Donc, les hôpitaux, comme vous l'avez signalé, un certain nombre d'hôpitaux de proximité ont fermé dans le cadre de la restructuration. Alors, évidemment, sur Bourges, on regrette infiniment la fermeture de l'hôpital Baudens, parce que ce sont des capacités hospitalières qui ont beaucoup baissé sur l'ensemble du département. Pour les militaires, évidemment, mais pour les civils également. Bien, donc au niveau des grands hôpitaux, suite à cette restructuration, on connaît les deux grands hôpitaux parisiens qui ne sont pas le Val-de-Grâce, puisque le Val-de-Grâce a fermé également. Il y a Bégin et il y a Percy.
D'accord.
Alors, le Val-de-Grâce a fermé en tant que structure hospitalière, mais continue à fonctionner en tant qu'école de formation. Voilà, donc un certain nombre de formations se font au niveau de l'ancien hôpital du Val-de-Grâce, que je connais bien puisque j'y suis allé plusieurs fois en tant qu'officier de réserve du service de santé des armées.
Où sont les universités ou les militaires, ou tout au moins des personnes qui veulent devenir médecins militaires? Il y a la faculté de Bordeaux, je crois.
Alors, il y avait deux facultés de médecine militaire, une à Bordeaux, une à Lyon. Alors, une à Bordeaux spécifiquement pour la marine, et une à Lyon pour l'armée de terre. Tout a été regroupé sur Lyon. La faculté de médecine militaire de Bordeaux a fermé également dans le cadre des restructurations. Donc, alors, celui qui veut devenir médecin militaire aujourd'hui, donc passe un concours pour accéder à la médecine militaire, fait des études de médecine qui sont intégrées dans le cursus universitaire civil, avec en plus une formation militaire qui donne un haut niveau à la fois au plan militaire et à la fois au plan universitaire, puisqu'il y a un encadrement très important qui en fait une grosse différence avec la médecine civile.
Ils sont combien à sortir? 10-15, pas plus?
Ah non, beaucoup plus que ça.
Ah oui,
je crois que le chiffre est entre 100 et 150.
Et ils sont ensuite affectés dans les différentes unités, régiments?
Alors, ils font leur internat dans des hôpitaux d'instruction des armées, c'est-à-dire les grands hôpitaux militaires qui ont survécu. Et puis, évidemment, après, ils sont affectés. Alors, pour les spécialistes dans les hôpitaux militaires, et pour les généralistes, à qui souvent on fait une formation d'urgentiste, dans les unités de la médecine des forces, dans les unités des forces régiments, etc.
Alors justement, Olivier, y a-t-il une obligation légale pour un médecin civil de participer au service de santé des armées?
Aujourd'hui, on peut répondre globalement non, avec quelques exceptions. Alors, comme à l'époque du service militaire, on restait disponible pendant 5 ans. Aujourd'hui, un médecin militaire qui va prendre sa retraite jeune, on va dire, oui. avant 50 ans. Ça arrive, hein, un certain nombre de médecins militaires qui se réorientent, prennent une retraite et s'installent dans le civil. Alors là, l'obligation, à ma connaissance, reste d'être disponible en cas de nécessité pour le service de santé des armées pendant 5 ans, je crois. Voilà. Et puis, évidemment, tous les réservistes de la réserve opérationnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la réserve opérationnelle du service de santé, que ce soit les médecins, mais également les infirmiers, joue un rôle très important dans le fonctionnement du service de santé des armées. Et donc, quand vous êtes réserviste opérationnel comme moi, avec un contrat d'engagement, on est effectivement soumis aux obligations des militaires.
Je sais que vous avez participé à plusieurs missions dans le cadre de vos fonctions de médecin de réserve. Est-ce que vous pouvez m'en dire quelques mots ? Je vous demande pas le pays, simplement comment ça se passe ?
Oui, alors, bien entendu, lorsqu'on est affecté en opération extérieure ou en mission de courte durée en dehors des frontières de la métropole, nous avons des nécessités de discrétion.
Oui, bien sûr.
Bon, le rôle principal, notre rôle principal, c'est le soutien aux armées, le soutien aux forces. Qu'on soit en rôle 1, c'est-à-dire dans une unité combattante, qu'on soit en rôle 2, c'est-à-dire dans une structure hospitalière projetée. Le rôle principal est le soutien des forces. Après, nous avons aussi de l'aide médicale aux populations, qui, selon les lieux, mais en tout cas partout où je suis allé, on a eu de l'aide médicale à la population, est plus ou moins importante. Alors, sans entrer dans les détails, oui, j'ai été amené à faire des opérations extérieures, en ex-Yougoslavie, en Afrique, au Moyen-Orient, mais également, alors, il s'agit pas de l'étranger, mais il s'agit d'une mission très très spéciale et que tout le monde connaît, c'est la lutte contre l'orpaillage clandestin en Guyane.
Ah oui. Alors qu'est-ce qui, là vous pouvez en parler, nous sommes en France.
Oui, bien sûr.
Alors, quel est votre rôle là? Vous accompagnez les gendarmes, les légionnaires pour dans leur mission. Est-ce que vous pouvez me dire quelques mots là?
Oui.
Il n'y a pas de secret là.
Oui, il n'y a pas de secret. Donc il y a des patrouilles dans la jungle,
oui.
Dans la jungle amazonienne, hein,
oui.
qui est dans le département région de Guyane. Donc les patrouilles, ce sont des patrouilles de 12 personnes. 12 personnes, alors légionnaires ou chasseurs alpins ou autres. Voilà. Et dans cette patrouille, nous avons un élément sanitaire qui, selon le niveau de la patrouille, peut être un médecin, un infirmier ou un auxiliaire sanitaire.
Ah, très bien, très bien.
Voilà, donc effectivement, cette activité nécessite des conditions physiques.
Justement, c'est la question que je voulais vous poser.
la jungle, la forêt amazonienne, il fait chaud. Ce n'est pas plat, il y a des moustiques, etc. Enfin, je ne vais pas aller jusque tous les détails.
Je vois très bien. Alors, ma dernière question, est-il vrai que la médecine des armées est à la pointe pour nombre de spécialités? Plus simplement, la médecine militaire profite-t-elle à la médecine civile?
Oui, bien sûr. Historiquement, nous avons un certain nombre de grands noms de la médecine qui sont issus du service de santé des armées, bien entendu. Pour ma part, en tant qu'anesthésiste et utilisateur de ce qu'on appelle aujourd'hui les neuroleptiques, tous ces produits ont été utilisés en premier lieu par des médecins militaires. Voilà. Donc, bien sûr, il y a des grands noms de la médecine militaire qui souvent c'est répandu dans le civil. Et toujours aujourd'hui, donc, les hôpitaux d'instruction des armées sont l'équivalent d'un gros CHU en France, aussi bien au niveau de la recherche que de l'enseignement.
Merci Olivier pour ces explications passionnantes sur un sujet dont nous savons peu, nous, malheureux civils. Merci à vous, fidèles auditeurs, auditrices, pour votre écoute et à très bientôt pour une nouvelle émission sur la vie militaire dans le Cher et dans le Berry avec Agora Défense et aussi dans le cadre de l'émission Le Berry se raconte. Merci, bonne semaine à vous et merci encore à toi Olivier, merci beaucoup.